VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. En Égypte, nouvel attentat suicide ce jeudi dans le nord du Sinaï où l'armée égyptienne fait face à une insurrection djihadiste. Bilan 2 personnes, dont un civil tué lors de cet attentat à la bombe qui a visé des membres des forces de sécurité dans un parking de la ville de Cheikh Zouweid. L'attaque n'a pas été revendiquée et ni l'armée ni le ministère égyptien de l'Intérieur n'ont commenté les informations au sujet de l'attentat. Par ailleurs, à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en cours en Égypte, le Nigeria s'est classé pour la 8e fois 3e dans la compétition en battant la Tunisie 1-0 grâce à un but d'Igalo lors du match de classement mercredi au Caire. Les Super Eagles ont pris l'avantage après seulement 3 minutes de jeu à la suite d'un cafouillage du gardien tunisien Ben Cherifia qui a permis à Odion Igalo d'inscrire dans les cages vides son 5e but de la compétition. La grande finale de la CAN 2019 opposera le Sénégal à l'Algérie demain au Caire. Au Soudan voisin, les généraux qui dirigent le pays depuis avril et les leaders du mouvement de contestation ont signé hier un accord sur le partage du pouvoir, un moment qualifié d'historique dont se félicitent l'Union africaine et les États-Unis. Les précisions d'Irénée Herman Ongo.
C'est une étape cruciale vers une réconciliation globale, s'est félicité le médiateur de l'Union africaine Mohamed El Hassem Lebat après avoir paraphé le document. L'ambassade américaine à Khartoum a de son côté encouragé les deux parties à continuer leurs discussions. Nous sommes impatients d'accueillir et de travailler avec de nouvelles institutions pour répondre aux défis pressants du Soudan, a indiqué sur Twitter Tibor Nage, le monsieur Afrique du département d'État américain. Des discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours sur l'immunité réclamée par les militaires et rejetée par le mouvement de contestation. La contestation et le conseil militaire qui a déposé le 11 avril, le président Omar El-Béchir s'était accordé le 5 juillet sur le principe d'un partage du pouvoir après une intense médiation de l'Union africaine et de l'Éthiopie.
Processus de paix en République centrafricaine, nouveau progrès dans le programme de DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Les combattants de trois groupes armés ont déposé les armes dans l'ouest du pays, c'est ce qu'a annoncé mercredi la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les éléments du Front démocratique du peuple centrafricain ont été complètement désarmés, a déclaré Kenneth Gluck, représentant spécial adjoint de la MINUSCA. Les combattants du mouvement Révolution et Justice ainsi que ceux de l'UFR anti-Balaka ont également rendu les armes, a-t-il ajouté. Plus de 450 combattants ont été désarmés dans la préfecture de la Nanamambéré, dans l'ouest du pays. Ce désarmement intervient dans le cadre du programme Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement, lancé en décembre 2018 par les autorités. À ce jour, 5 groupes armés y ont pris part, celui du mouvement de 3R est actuellement en cours selon la MINUSCA. La majorité des 14 groupes signataires de l'accord de paix de Khartoum n'ont toutefois pas encore désarmé leurs troupes. Cet accord est le 8e conclu depuis 2013. La situation sécuritaire reste particulièrement fragile et les violences ont forcé près d'un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile.
Ebola en République démocratique du Congo maintenant. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que l'épidémie d'Ebola en RDC est désormais une urgence sanitaire mondiale. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie qui a déjà fait près de 1700 morts depuis l'été dernier. Bagassi Koura.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué qu'il était temps pour le monde de prendre acte de l'épidémie, mais il a recommandé que les frontières de la RDC avec ses voisins restent ouvertes. L'agence spécialisée de l'ONU sur la santé a pris sa décision après la découverte d'un cas dans la ville de Goma à la frontière avec le Rwanda. En juin, 2 cas ont également été détectés en Ouganda. L'urgence sanitaire mondiale est une mesure exceptionnelle qui n'a été décrétée que 4 fois par l'OMS en 2009. 2009 pour la grippe aviaire H1N1, en 2014 pour la poliomyélite et pour l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 300 morts dans trois pays d'Afrique de l'Ouest et en 2016 pour le virus Zika. Dans un communiqué, l'OMS a précisé que cette déclaration est une mesure pour reconnaître les risques potentiels au niveau local et régional et la nécessité d'une action intensifiée et coordonnée pour y faire face. L'épidémie actuelle est la 10e depuis 1976 en RDC et a fait près de 1 700 morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité américaine, il y a un demi-siècle et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme posait le pied sur la Lune. Une incroyable aventure humaine en vue d'Afrique qui se raconte encore pour avoir marqué plusieurs générations. Le récit de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
L'histoire de la première aventure humaine sur la Lune, conduite par Neil Armstrong, a traversé les générations. Loin des nostalgiques d'une époque, Armstrong Agaya est journaliste, la trentaine révolue. À sa naissance, son père l'a baptisé avec ce prénom, Armstrong Agaya.
Pendant de nombreuses années, même à l'école primaire, il m'a été difficile de me faire accepter avec ce prénom. On pensait que j'ai choisi d'imiter la vie d'un Américain simplement, alors que je suis bien né Armstrong de mon prénom et Agaya de mon nom de famille. J'étais tout jeune et j'avais du mal à comprendre. Quand je demandais, on essayait de m'expliquer, mais à chaque fois je regardais la Lune et je me demandais mais comment quelqu'un a pu aller sur la Lune.
One, zero, all engine running.
Il y a 50 ans, jour pour jour, les astronautes américains de la mission Apollo 11 ont changé la vision que l'humanité avait de sa place dans l'univers. Le professeur Donatien Mavungu se trouvait au Canada pour ses études le 20 juillet 1969 et se souvient encore.
Nous avons plutôt retenu l'expression du message. Le message pour dire, oui, la science peut encore faire beaucoup pour justement répondre à des défis. Je prends par exemple le grand fléau, le VIH-Sida, Luc Montagnier, Jean-Claude Sherman ont isolé le virus. Ça a été un grand stimuli pour la communauté scientifique. Je voulais être aussi un genre de Neil Armstrong. Aujourd'hui, j'ai développé un traitement contre le VIH-Sida.
L'événement se passe un an après l'effervescence de mai 68 et en pleine guerre froide où le continent africain était divisé entre ceux qui défendaient le bloc soviétique et les partisans du capitalisme. Enseignant à la retraite, premier africain correspondant de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon en France, Raphaël Koukamizer garde de beaux souvenirs de la mission Apollo 11.
Je suis dans un pays, le Congo socialiste communiste à l'époque. Nous sommes dans cette effervescence communiste. Les Américains, donc la puissance capitaliste, va envoyer sur la Lune des hommes. J'ai 12 ans et je suis en classe de 6e. On se dit, tiens, les Américains vont envoyer des gens sur la Lune. Mais c'est ça alors. Mais c'est une défaite vis-à-vis, disons, de notre bloc, au bloc auquel on appartenait.
Libreville, Ismaël Obiang-Nze, VO Afrique.
Actualité américaine toujours, Joaquin Guzman dit El Chapo a été le baron de la drogue le plus puissant et le plus recherché du monde. Et il a été condamné hier à la prison à perpétuité aux États-Unis. Ses évasions rocambolesques l'ont rendu célèbre jusqu'à son arrestation en 2016. Gabi Dorsil.
El Chapo, le courtot, est un surnom dû à sa petite taille. Né le 4 avril 1957 d'une famille pauvre dans le nord-ouest du Mexique, l'enfant, Joaquin Guzman, vendait des oranges, caramels et boissons gazeuses. Adolescent, il se met à cultiver la marijuana et le pavot. Il sera recruté par le chef du cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé le parrain. À l'arrestation de ce dernier en 1989, Joaquin Guzman fonde le cartel de Sinaloa. Il fournira de l'héroïne, de la cocaïne et de la marijuana dans le monde, dont plus de 1200 tonnes vers les États-Unis. Il a des flottes de sous-marins, d'avions, de camions et de bateaux, et a même figuré un temps sur la liste du magazine Forbes des hommes les plus riches du monde. En 1993, des tueurs l'ont confondu avec un cardinal à l'aéroport de Guadalajara. Un mois après, il est arrêté au Guatemala. Détenu dans une prison de haute sécurité mexicaine, il soudoie ses gardes et s'échappe en 2001, caché dans un bac à linge sale. Il a fallu 13 ans pour le rattraper. Là encore, il s'évade en juillet 2015 par un tunnel d'un kilomètre et demi débouchant sous la douche de sa cellule. Cette nouvelle cavale sera brève. Il est arrêté en janvier 2016 dans son fief de Sinaloa. Expulsé vers les États-Unis, El Chapo a été condamné mercredi par un juge de New York à la prison à vie, plus 30 ans. Il devra purger sa peine à Florence, dans le Colorado, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. Cette prison au milieu de nulle part est considérée comme la plus sûre et la mieux gardée aux États-Unis.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.